La commission mixte paritaire a été conclusive. Les 7 députés et les 7 sénateurs ont acté une version de la proposition de loi organique visant à reporter les provinciales. Le parcours législatif se poursuit. Le texte sera maintenant débattu la nuit prochaine à l'Assemblée nationale et la suivante au Sénat. L'ultime alerte de la DEC, le directeur de la direction diocésaine de l'enseignement catholique annonce que les cantines pourraient être suspendues à partir de la semaine prochaine en raison des graves difficultés budgétaires. L'enquête se poursuit au Louvre. Deux hommes originaires de Seine-Saint-Denis sont toujours en garde à vue. Le point sur les investigations dans ce journal. Nicolas Sarkozy reçoit la visite de deux députés LFI à la prison de la Santé. Il voulait vérifier que l'ancien président de la République ne bénéficiait pas d'un traitement de faveur. La rencontre n'a toutefois pas été autorisée par l'établissement. Un bras de fer judiciaire est désormais engagé. En tennis, les Français à l'heure pour le rendez-vous du Rolex Paris Masters. Alexandre Muller, Arthur Cazot, Arthur Hinderknecht et se qualifient pour le deuxième tour de ce tournoi parisien. La météo en Nouvelle-Calédonie, un temps très ensoleillé sur l'ensemble du territoire pour ce matin. Nuages et averses se développent sur le relief et dans une moindre mesure à Lifou et Marais. Quant aux températures maximales, elles sont chaudes jusqu'à 32 à 33 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, la commission mixte paritaire a donc trouvé un compromis pour reporter les élections provinciales. Composée de 7 sénateurs et de 7 députés, cette CMP devait examiner la proposition de loi organique visant à reporter le scrutin au plus tard au 28 juin 2026. Cette commission mixte paritaire a modifié légèrement le texte transpartisan qui avait été signé par 6 groupes de sénateurs. Il est désormais indiqué que le report doit permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. À l'origine, il était écrit que ce décalage devait permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025, c'est-à-dire celui signé à Bougival. Écoutez la réaction de Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription.
Le vote de la commission mixte paritaire qu'on appelle CMP a été conclusif. Ça veut dire que les sénateurs et les députés se sont entendus majoritairement pour valider le report des élections provinciales. Mais ce n'est pas encore fini puisque désormais les conclusions de cette commission doivent être votées par l'Assemblée et le Sénat. Et donc on aura le vote mardi pour nous, c'est-à-dire mercredi pour la Nouvelle-Calédonie, un vote décisif à l'Assemblée nationale, parce que si l'Assemblée rejette les conclusions de la CMP, malheureusement les élections auront lieu en novembre avec le corps électoral gelé. Et si l'hémicycle vote majoritairement en faveur des résultats de la CMP, ça veut dire qu'on aura réussi à décaler les élections, et donc on pourra continuer à discuter sur un accord en Nouvelle-Calédonie.
La réaction du député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, recueilli tôt ce matin pour nous à Paris. Avant cette réunion de la commission mixte paritaire, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, avait adressé une lettre au Premier ministre Sébastien Lecornu pour affirmer sa farouche opposition au report des élections provinciales. La CCAT avait de son côté écrit au président de la République et aux membres de la CMT en annonçant des mobilisations de terrain. Cette proposition, issue donc de la commission mixte paritaire, sera ensuite examinée mardi en séance publique par l'Assemblée nationale. Ce sera donc la nuit prochaine le moment crucial puisque l'on saura à ce moment-là s'il y a ou non une majorité pour adopter le texte qui ne pourra pas être amendé. Et c'est mercredi que le Sénat conclura l'examen de la proposition de loi organique et il restera ensuite quelques jours pour qu'elle soit soumise au Conseil constitutionnel avant sa promulgation qui doit intervenir, je le rappelle, au plus tard le 2 novembre. L'actualité sur le territoire à présent est la DEC qui alerte une ultime fois sur sa situation budgétaire. La direction diocésaine de l'enseignement catholique a annoncé hier lors d'une déclaration solennelle que la cantine pourrait être suspendue dès le 3 novembre, Charlotte Coulson.
La situation financière critique de la DEC est maintenant bien connue des Calédoniens. La direction diocésaine de l'enseignement catholique a lancé l'alerte à de nombreuses reprises. La dernière fois avec une mobilisation pacifique devant le congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'était le 9 octobre. Si le directeur de la DEC dit avoir reçu une écoute attentive, 20 jours plus tard, aucune mesure concrète n'a été prise. Pire que cela, a-t-il dit, certains élus réclament un nouvel audit organisationnel et financier de la DEC, le signe d'un déni du constat déjà établi selon Manuel Van der Scott. Aujourd'hui, il en appelle à la responsabilité politique de nos décideurs, sans quoi des mesures difficiles seront prises.
À compter du 3 novembre 2025, la fabrication des repas sera suspendue. Le service de cantine le midi ne sera pas assuré dans l'ensemble de nos établissements. Cette mesure sera réévaluée tous les 15 jours. Pour les élèves internes, particulièrement dans les lycées où les élèves ont débuté depuis aujourd'hui les épreuves de la session d'examen 2025, les résidences scolaires resteront ouvertes. Les petits déjeuners et les dîners seront assurés normalement. 32 personnels remplaçants en contrat à durée déterminée ne seront pas renouvelés. Et, par ailleurs, sans solution dans les jours à venir, un plan de licenciement économique sera engagé, car le DEC ne peut plus attendre.
Ces décisions impacteraient 9337 demi-pensionnaires sur les 12116 élèves scolarisés dans le privé catholique en Calédonie, mais aussi près de 1600 salariés. Mais la DEC espère toujours obtenir une réponse politique rapide, car l'objectif de cette déclaration solennelle était aussi de clarifier la situation. Manuel Van der Scott en appelle à la responsabilité politique des élus.
Contrairement à certaines affirmations, la DEC n'est pas en déficit. La tension actuelle sur sa trésorerie, évaluée à 630 millions de francs, provient exclusivement du non-versement par un grand nombre de partenaires publics des contributions pourtant rendues possibles par la délibération numéro 360 relative au financement de la fonction accueil, cantine et internat, dans l'enseignement privé. Il ne s'agit donc ni d'un besoin nouveau, ni d'une dérive de gestion, mais de la stricte conséquence de l'inaction des décideurs politiques depuis l'alerte lancée en février 2024. Depuis cette date, à l'exception des nombreuses mesures d'économie engagées en interne par la DEC, rien n'a été engagé par les institutions concernées pour corriger ce déséquilibre budgétaire.
Manuel Van der Scott a renouvelé à l'occasion de cette déclaration solennelle les objectifs de la DEC. Elle souhaite obtenir, entre autres, avant la fin novembre 2025, le versement de 630 millions de francs correspondant aux contributions dues au titre de sa fonction d'accueil. Elle souhaite aussi que des travaux soient engagés sur la révision des taux planchers pour 2026.
Dans le reste de l'actualité de ce mardi, deux audiences solennelles de présentation hier au tribunal de Nouméa. L'occasion d'installer officiellement dans leurs fonctions les personnels de justice arrivés dernièrement sur le territoire. Il s'agissait notamment de Bruno Carle, premier président, de Cécile Morillon, présidente de chambre, Pierre Michaud, avocat général, ou encore Camille Miansoni, le procureur général qui remplace Bruno Dalle, affecté depuis à Monaco. Et il a rappelé ses priorités, et notamment les conditions d'incarcération en Nouvelle-Calédonie.
La question de l'administration pénitentiaire, donc de la prison, pour dire les choses simplement, nous avons une prison qui n'est pas du tout à la hauteur de l'image et de la France. Donc il faut que cette question soit traitée. Alors il y a un projet d'établissement, vous le savez tous, qui est en cours, mais un établissement pénitentiaire, ça ne se construit pas en deux jours. Ça se construira, j'en suis convaincu, mais il faut du temps. Et en attendant ce nouvel établissement, il faudrait qu'on puisse trouver une solution pour essayer de désengorger. D'où l'idée de trouver des modalités d'application de la peine, notamment un centre de semi-liberté qui serait à l'extérieur, qui permettrait de sortir une centaine de détenus, pas les plus dangereux, pas les plus lourdement condamnés, mais en attendant la création d'un nouvel établissement.
Le procureur général cite encore parmi ses priorités la lutte contre les violences intrafamiliales et la délinquance économique et financière. Dans ses réquisitions, Camille Miansoni a rappelé le contexte de la Nouvelle-Calédonie et sa détermination à lutter contre tous les faits qui viseraient à remettre en cause la paix sociale. Après cette audience de la Cour d'appel de Nouméa, une autre audience a permis d'installer les nouveaux magistrats du parquet. Un soulagement pour le procureur de la République, Yves Dupas.
C'est une étape très importante dans le renouvellement de l'équipe du parquet. Nous étions depuis plusieurs mois à moins 4 magistrats sur une équipe de 9. C'était effectivement compliqué, mais nous avons tenu. Et puis là, nous avons le plaisir d'accueillir nos nouvelles collègues qui vont apporter leur richesse de parcours, leur expérience, leur expertise, avec deux vice-procureurs, l'une qui est en charge de la section détachée de Connay, l'autre qui assurera le contentieux économique et financier, les procédures commerciales. Oui, la lutte contre la délinquance économique et financière fait partie de nos priorités, et donc Fatou Diop sera sur ce type de procédure. C'est très important pour nous d'accueillir ses collègues aujourd'hui, vraiment.
Le procureur de la République a lui aussi insisté sur la détermination du parquet dans la lutte contre les actes visant à troubler l'ordre public et notamment les menaces sur les élus.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord. 83% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales sera adoptée définitivement par les deux chambres. Ils sont donc 17% à être d'un avis contraire. Voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous favorable à la création d'un centre de semi-liberté, comme le propose le procureur général, pour désengorger le camp Est, en attendant la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2, et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h passé de 41 minutes, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause publicitaire dans ce journal, avant de voir toute l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment les débats sur le budget qui continuent à l'Assemblée nationale.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
EIM, votre spécialiste de l'équipement de manutention à la location ou à la vente depuis 1987. Besoin d'un groupe électrogène, un élévateur, une tour de lumière? EIM, c'est des marques à des prix compétitifs et un SAV de qualité. EIM, 21 rue Henri Simonin à Ducos. Plus d'infos sur Facebook.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Je réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
Préparez votre cri le plus terrifiant et enfilez le costume le plus diabolique. Le vendredi 31 octobre, la ville du Mont d'Or transforme le parc Paul Bloch à Plume en un royaume d'épouvante horriblement amusant pour petits et grands. Frissons garantis. Au programme, le terrifiant château de l'horreur. Participez au concours de déguisement et ne manquez sous aucun prétexte le zombie show spectaculaire. Et sans oublier, la chasse aux bonbons. Ne ratez pas la soirée d'Halloween 2025 du Mont d'Or. Vendredi 31 octobre, de 16h à 21h, au parc Paul Bloch à Plume. Renseignements au 41 90 90.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec les débats à l'Assemblée nationale qui se poursuivent au sujet du budget de l'État. Les députés ont notamment adopté cette nuit un amendement qui alourdit de 2 milliards la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises. La partie la plus importante du budget devrait être débattue en fin de semaine avec la fameuse taxe Zuckmann que le PS espère toujours faire adopter. Mais en l'état, le bloc central n'en veut pas. Les tractations se poursuivent donc entre Sébastien Lecornu, le Premier ministre, et les socialistes. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Après avoir augmenté les impôts sur les grandes entreprises, les députés devaient examiner aujourd'hui la taxation des plus hauts patrimoines, une mesure que le PS veut voir figurer dans le texte final, sous peine de censurer Sébastien Lecornu. Mais la proposition ne recueille pour l'instant pas de majorité, raison pour laquelle le gouvernement a décalé la discussion, le temps de trouver un accord avec le bloc central. Alors officiellement, le ministre de l'économie Roland Lescure invoque son absence de l'hémicycle mercredi en raison d'un déplacement à Toronto et New York. Mais l'argument ne convainc ni le RN, ni la France insoumise. La preuve, Manuel Bompard, tout à l'heure, a reproché au gouvernement d'avoir déposé un amendement à la dernière minute sur la taxation des grandes entreprises, fruit, selon lui, d'un accord passé avec le PS.
Vous ne nous donnez même pas un chiffrage précis. On a quelques minutes pour pouvoir décider si c'est un bon amendement ou pas. Tout ça parce qu'en parallèle, vous avez des discussions secrètes entre votre groupe, le groupe du Parti Socialiste, pour essayer de vous mettre d'accord.
Ce que soupçonnent les insoumis, comme le RN, c'est un accord entre le gouvernement et le PS pour augmenter d'un côté la taxe sur les grandes entreprises et alléger de l'autre l'impôt initialement prévu sur les plus hauts patrimoines.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Deux députés LFI débarquent à la prison de la Santé. Ils ont fait valoir leur droit parlementaire de visiter les prisons au titre de l'article 719 du Code de procédure pénale. Objectif pour Hugo Bernalicis et Daniel Obono, vérifier les conditions de détention dans cette prison parisienne dans laquelle est incarcéré Nicolas Sarkozy. Ils souhaitaient notamment voir si l'ancien président de la République ne bénéficiait pas d'un traitement de faveur. Une visite inopinée qui a même contraint l'établissement à décaler un moment au parloir avec sa famille. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
Oui, et s'ils n'ont pas pu voir Nicolas Sarkozy lors de leur passage, sa famille et son avocat ont été contraints de décaler leur visite pour protéger l'ancien président de toute photographie ou vidéo. Il faut dire que le motif donné par les élus insoumis annonce la couleur, mettre en lumière un potentiel traitement de faveur. Johan Carrard, secrétaire général adjoint du syndicat national FO Justice, regrette une utilisation dévoyée du droit parlementaire.
Normalement, clairement, ces visites des députés sont surtout là pour vérifier que les établissements sont conformes à la loi. Ils ne sont pas là pour vérifier des faveurs ou je ne sais quel motif un peu bizarre. On n'est pas là dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire.
Toujours est-il qu'aucun député ne peut être empêché de visiter un établissement pénitentiaire ni d'être accompagné par plusieurs journalistes. S'il est impossible d'avoir accès à un détenu sans son autorisation préalable, une visite de tous les quartiers de la prison est toujours possible. Les élus insoumis pourraient donc faire le choix de revenir à la santé dans les jours qui viennent. Ils dénoncent dans un communiqué une restriction de leur droit de visite, notamment lors de leur passage dans le quartier d'isolement. Le tribunal administratif de Paris a été saisi. Une audience est prévue demain à 14h.
Maïhélène Trémollet pour Europe 1. Dans l'actualité judiciaire, deux suspects soupçonnés d'avoir participé au spectaculaire casse du Louvre sont toujours entendus par les enquêteurs dans les locaux de la police. Originaires de Seine-Saint-Denis, connus de la police, les deux hommes ont été confondus par leur ADN. Ils ont donc été interpellés in extremis en partance pour leur pays d'origine. Mais alors, comment les enquêteurs se servent de ces deux gardes à vue pour tenter de faire avancer les investigations ? Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Eh bien d'abord, en multipliant les interrogatoires des deux suspects, voire en les confrontant directement, une technique pour tenter de les diviser et ainsi obtenir de nouvelles informations. En parallèle de ça, les enquêteurs utilisent tous les outils à disposition. Écoutez Reda Bellage, policier, porte-parole du syndicat Unité.
On va faire des rapprochements, on va travailler sur sur les images de vidéosurveillance, sur la géologue des téléphones.
La téléphonie, principal outil pour les enquêteurs, le moindre SMS envoyé, le moindre appel passé, même une recherche sur Internet va être scrutée. De son côté, la police scientifique poursuit ses analyses. On le rappelle, plus de 150 traces d'ADN ont été retrouvées sur les lieux du cambriolage. Une mine d'or pour les policiers qui a permis de remonter la piste donc de ces deux premiers suspects et qui va aider à retrouver les autres. Écoutez Reda Bellage.
On a au moins déjà deux suspects encore à retrouver, plus d'éventuels complices, plus un éventuel commanditaire.
Pour cela, les gardes à vue des deux hommes interpellés devraient être prolongés de 48 heures, soit jusqu'à mercredi soir.
Et c'est la police scientifique qui était parvenue à remonter jusqu'au malfaiteur grâce à plus de 150 prélèvements réalisés sur les lieux du cambriolage. En bref, des actes de vandalisme perturbent le transport ferroviaire en France. Les perturbations vont se poursuivre sur la ligne à grande vitesse sud-est avant un retour à peu près à la normale, puis un rétablissement complet dans la journée pour nous. Une annonce du ministre des Transports alors que des annulations et d'importants retards sont signalés sur les TGV entre Paris, Marseille, Montpellier ou encore Nice.
Radio Rythme Bleu, 6h47.
L'actualité à l'étranger en Argentine, c'est un triomphe pour Javier Milei et son parti a largement remporté les élections législatives de mi-mandat avec près de 40% des suffrages, malgré un taux d'abstention record. Donné pourtant en perdant avant le scrutin, le président argentin va donc tripler son nombre de représentants du Parlement. Il compte bien en profiter pour continuer ses réformes économiques, Antoine Bienvaux.
Conforté par sa nouvelle majorité relative au Parlement, Javier Milei a assuré, dès l'annonce des résultats, vouloir poursuivre ses réformes ultralibérales en appelant ses opposants à le rejoindre.
Nous avons la responsabilité de laisser de côté les intérêts partisans. Il y a des dizaines de députés et sénateurs d'autres partis avec lesquels nous pouvons trouver des accords basiques.
Des compromis nécessaires pour Javier Milei qui, dans les deux prochaines années, souhaite une libéralisation en profondeur du marché du travail, mais aussi une refonte du système des retraites. Le président argentin devra par ailleurs rapidement résoudre le problème de la dette. Son gouvernement doit accumuler des réserves de change afin de rembourser au moins 18 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Un temps déprécié, la valeur du peso, la monnaie argentine, a bondi de 4% par rapport au dollar ce matin à l'annonce des résultats, tandis que la bourse de Buenos Aires a elle aussi ouverte en forte hausse. Des résultats qui devraient conforter la mise en place du plan d'aide de 40 milliards de dollars promis par Donald Trump pour soutenir l'économie argentine.
Javier Milei qui a d'ailleurs été félicité par le président américain Donald Trump pour cette victoire. Il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause publicitaire avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la préparation de la saison chaude et de la saison cyclonique.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Oh bah, c'est quoi toute cette neige? Tu prépares les décos de Noël? Ah,
c'est pas de la neige, c'est de la farine. J'essaie de faire de la pâte à pizza, mais c'est galère.
Pourquoi tu t'embêtes? À la Maison du Pain jusqu'au 31 octobre, pour l'achat d'une plaque de pizza à 3990 francs, la deuxième est à moins 50%. Il y a Rennes, trois fromages, montagnarde, pepperoni et chèvre pesto.
Ok, je fonce.
Hep, la Reine des Neiges, là. Tu nettoies tout ça avant.
Oh, mais non.
Voir conditions en magasin. Le 4, 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le Salon du Village Automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et avec l'arrivée de la saison chaude sur la Nouvelle-Calédonie, la saison des cyclones se prépare également. Hier, les services du Centre Météo France de Nouméa rencontraient la presse pour présenter la saison 2025-2026. Charlotte Coulson.
Une saison 2025-2026 qui se présente à nous sous l'influence du phénomène La Niña qui semble s'installer sur le Pacifique. La Niña signifie, pour faire simple, que les eaux et l'atmosphère sont plus chaudes sur l'ouest du bassin Pacifique, c'est-à-dire chez nous. Conséquence, les pluies devraient être plus importantes dans le mois qui vient. Et pour ce qui est des cyclones, la zone de cyclogénèse, la zone où naissent les phénomènes tropicaux, est plus proche de la Nouvelle-Calédonie. Thomas Abinoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Pour cette saison 2025-2026, l'activité cyclonique devrait se décaler sur l'ouest du bassin, donc toucher principalement la Nouvelle-Calédonie et les Vanuatu. Et donc on s'attend à avoir une saison qui soit entre conforme et supérieure en termes d'activité cyclonique par rapport aux années passées, sachant qu'en moyenne, on a entre 4 à 5 phénomènes cycloniques sur la zone d'alerte de Nouvelle-Calédonie.
Il y a quelques jours, l'ensemble des services météo de la très grande région Pacifique se sont retrouvés pour évoquer, comme chaque année, la saison cyclonique. Tous les modèles s'accordent à dire que la zone Nouvelle-Calédonie-Vanuatu devrait être la plus exposée aux phénomènes tropicaux pour cette saison 2025-2026.
Et j'ajoute que nous reparlerons de cette saison cyclonique qui se prépare à 7h30. C'est en effet Thomas Binoun, climatologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie, qui sera tout à l'heure notre invité du matin. Dans l'actualité militaire mais aussi économique, la pose hier en début d'après-midi de la première pierre du futur mess des officiers de l'artillerie, Lionel Sabot.
Après 51 ans de bons et loyaux services, le mess bien connu des Calédoniens n'est plus et le chantier du bâtiment qui le remplacera d'ici le mois de mars 2027 est en cours. Ce chantier, lancé il y a maintenant un an avec la signature des contrats entre la direction des infrastructures des forces armées en Nouvelle-Calédonie et les différents maîtres d'œuvre, s'inscrit dans les investissements d'infrastructures de défense en Calédonie, plus globalement dans un contexte de programmation de loi militaire qui prévoit 17 milliards de francs pacifiques d'investissement. La pose de la première pierre de ce chantier s'est déroulé en présence du général de brigade Gabriel Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
C'est un chantier ambitieux, puisque 1,67 milliard de francs pacifiques, ce n'est pas rien, et ce qui en fait aujourd'hui le premier projet infra sur le caillou. Je pense que ça fait partie aussi de nos missions, de participer à cette relance économique. Ce projet infrastructure donc, est assez conséquent financièrement. C'est aussi une quarantaine d'entreprises calédoniennes qui sont parties prenantes de ce projet infrastructure. Et donc c'est un soutien direct au secteur du BTP calédonien, aux entreprises calédoniennes et à toutes les femmes et les hommes qui servent dans ce secteur.
Ouais, ce futur nouveau mess de l'artillerie sera donc un lieu de convivialité pour les militaires présents en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement. Le général Soubrier tient également à en faire un lieu de mémoire.
Le mess précédent datait de 1974. De nombreux Calédoniens y sont passés, notamment de nombreux conscrits. Et l'idée est de valoriser, de mettre à l'honneur ces soldats qui ont servi au sein des forces armées en Nouvelle-Calédonie en mettant dans le hall d'entrée des figures calédoniennes qui ont servi les armées françaises, ici ou ailleurs, et ce qui permettra d'avoir ce lien avec l'histoire, ce lien avec la mémoire, et que lorsque chacun rentrera au sein du mess des artifices, pourra avoir une pensée pour ses anciens. Et d'ailleurs, ce qui tombe bien, c'est que 2027 arrivera après 2026, et que 2026 sont les 80 ans du retour du bataillon du Pacifique. Et pourquoi pas mettre une figure du bataillon du Pacifique dans ce hall d'honneur, et qui sera là pour valoriser nos anciens.
Et le futur mess des officiers de l'artillerie devrait être livré en mars 2027. Ses premiers clients, entre guillemets, bien évidemment, devraient être les militaires de la région qui participeront au prochain exercice Croix du Sud en 2027.
En bref, Air Calin renforce la fiabilité et le confort de ses vols pour la haute saison à partir du 24 novembre. Air Calin mettra en ligne plusieurs vols affrétés auprès d'Euro-Atlantic Airways, une compagnie européenne qui opère sous la même réglementation et selon le même standard qu'Air Calin. Dans les faits, il s'agit d'utiliser pour la haute saison un avion supplémentaire, Boeing 777-200, qui offre un niveau de confort équivalent à celui proposé habituellement dans les trois classes de transport. Certains services sont susceptibles de changer, comme le fait que l'appareil ne dispose pas de Wi-Fi à bord. L'appareil opérera principalement sur les routes Sydney et Singapour entre le 4 décembre et le 5 février. Les passagers concernés sont informés de ces changements d'appareil. Ce dispositif renforcé contribuera à assurer la ponctualité et la régularité du programme des vols, indique la compagnie. Il est 6h56, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive, et on va parler de tennis ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le nouveau SUV Subaru Forester, un design renouvelé, moderne et affirmé. Le nouveau SUV Subaru Forester, 182 chevaux sous le capot, 4x4 permanent et technologie EyeSight pour une sécurité et un confort incomparables. Le nouveau SUV Subaru Forester, chaque trajet devient un moment de sérénité et de maîtrise. Venez le découvrir et l'essayer au village automobile au PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné. Le nouveau Subaru Forester, puissance, style et innovation réunis dans un SUV unique.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous voulez découvrir le golf gratuitement ? C'est possible, grâce aux journées portes ouvertes proposées par le golf de Dumbéa du 19 octobre au 2 novembre. Passez une demi-journée en famille, initiez-vous au golf et dégustez des plats savoureux au restaurant Le Rix. Oui, vous avez bien entendu, Le Rix. Votre restaurant s'est déplacé de la piscine de Coutio au golf de Dumbéa. Alors n'hésitez plus, réservez dès maintenant votre initiation au golf au 41 80 00 et votre déjeuner au 46 78 32. À bientôt au golf de Dumbéa.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec du tennis, puisqu'on joue le premier tour du Masters 1000 du Rolex Paris Master. Côté tricolore, ça s'est bien passé pour Arthur Cazzo, vainqueur de l'Italien Luciano Darderi en 2-7. De son côté, le finaliste du tournoi de Shanghai a été malmené dans les 2-7, mais Arthur Hinderknecht a eu la faculté de réagir contre le Hongrois Fabian Marozan. Il pourrait retrouver son cousin Valentin Vachereau au prochain tour sur les cours de la Défense Arena. Alexandre Muller a lui disposé de l'Américain Brandon Nakashima. Il s'est assez facilement qualifié pour le tour suivant. En revanche, Terence Atman a été éliminé dès le premier tour par Aleksandar Vukic. Et puis, Giovanni Ampeci-Pericard a été logiquement battu et sorti par le Bulgare Grigor Dimitrov. Après avoir un premier set accroché entre les deux hommes, il a donc sombré dans le deuxième set pour s'incliner.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, temps très ensoleillé sur l'ensemble du territoire pour ce matin. Le vent sera orienté à l'est, il soufflera autour des 10 nœuds sur la pointe nord, ce sera le maximum. Ailleurs, il restera faible avec des brises de sud orientées 5 à 10 nœuds au lever et puis en cours de matinée sur l'ouest. Cet après-midi, nuages et averses se développeront sur le relief dans une moindre mesure à Lifou et Marais. Des débordements sont attendus sur les versants ouest de la chaîne et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ailleurs, le soleil restera très présent. Le vent pour cet après-midi orienté est autour des 5 à 10 nœuds toujours sur la pointe nord, il se renforce au sud-est autour des 10 nœuds sur l'ouest. Ailleurs, il sera variable faible. On termine par les températures, elles sont comprises en général entre 32 et 33 degrés.